France Culture.
À voix nue, Sylvie Gasteau.
Jacques Lifshin, metteur en songe.
Bonsoir Jacques.
Oui, je suis là.
Cinquième et dernier entretien. Quand tu aimes, il faut partir.
C'est pas moi qui l'ai dit ça, c'est Blessandra. Quitte ta femme, quitte ton enfant, quitte ton ami, quitte ton ami, quitte ton amante, quitte ton amant. Quand tu aimes, il faut partir. Il y a l'air, il y a le vent, oui.
Hier, nous étions au mille et une fêtes, et aujourd'hui, ça continue. Oui. Aujourd'hui, c'est la poésie, la fête des mots.
Oui.
Tu as fait des actes poétiques radicaux dans ta vie.
Ah ouais, j'aime ça, les actes poétiques radicaux, ça se fait... Il n'y a pas de public, hein, c'est des choses à moi, c'est dire un poème dans les ruines de Petra, dire un poème sur le haut d'une montagne, etc. Pas besoin de public, c'est un truc entre Jacques et Jacques, entre moi et lui. Voilà. Ça, j'aime beaucoup ça. Je sais pas, on en a fait des vrais de vrais, on a souvent fait des images pour pas de public. En se disant, il y a bien un photographe qui va nous regarder un jour, et puis finalement, on a de temps en temps des photos, on est tout seul, dans la nature, c'est hyper beau.
Et c'est quoi la beauté du geste?
La beauté du geste. Mais c'est faire des choses totalement gratuites, quoi. Le théâtre, il est devenu une sorte de toile d'araignée avec des contrats, des obligations, des règles de sécurité, des cachets, après des évaluations, après tu veux avoir tes 3T dans les journaux, dans les hebdomadaires, après tu veux avoir une bonne critique dans le monde. Alors la beauté du geste, c'est qu'un jour tu t'en fous de tout ça. Et pourtant moi j'ai triché, hein. Un jour il fallait que j'ai un article dans le journal Le Monde. Et on a fait une pièce en ne pensant qu'au journal Le Monde, en disant si on n'a pas d'article, on ne sera pas coté, on n'aura plus de subvention. Voilà. Donc tu peux tricher un peu, voilà. Mais la beauté du geste, c'est justement quand tu n'en as plus rien à faire. Tu fais les choses que pour toi, ce que j'ai fait avec Rimbaud. Je n'ai pas besoin de public, je n'ai besoin de personne, je n'ai pas besoin de subvention, je fais ça pour moi. Oui, c'est le problème. Est-ce qu'on fait du théâtre pour les autres, pour leur plaire, ou pour nous? Alors, il y en a plein qui font du théâtre pour eux. Tu le vois d'ailleurs quand tu vois des pièces où tu es à l'extérieur. Et moi, c'est vrai qu'en fin de vie, j'ai décidé de faire une pièce pour moi. Et tant pis si les gens comprennent pas, elle est pour moi. Moi-même, je la comprends pas complètement, c'est pas grave. Mais normalement, à chaque fois, on dit, le public, il va penser quoi? Il y aura des enfants, fais attention. Ah, il faut qu'il y ait des lycéens, méfie-toi, etc. On s'auto-censure pas mal, hein.
Aujourd'hui, tu habites à la frontière de l'Europe,
oui.
Pas loin du dernier camp de base du Théâtre de l'Unité à Audincourt. Donc tu es de plus en plus loin de Paris, de plus en plus décentralisé.
Oui, mais c'est complexe, hein. Paris, tu quittes jamais Paris, tu quittes jamais Paris, tu es toujours, même quand tu es en Franche-Comté depuis 20 ans... Il y a toujours la ligne 13 qui te tourmente. C'est même pas pareil à Paris. Tu vois tellement de gens différents, tu vois tellement de costumes, tellement... Là-bas, dans notre pays, tout le monde s'habille pareil. T'as pas le droit de mettre de la couleur. Ça, il faut pas te faire remarquer. Il y a l'Empire Peugeot qui règne au-dessus de tout le monde. On se le dit pas entre nous, mais on le sait. Et donc, oui, alors je me suis mis sur la frontière suisse. C'était bizarre, C'était un pressentiment, comme si un jour, comme mon père avait été chassé de Russie, moi je serais chassé de France. Je lui dis, je passerai par la forêt et je me retrouverai en Suisse, tranquille, parce qu'en Suisse, il n'y a pas de guerre. C'est le pays de la paix complet. Ça ne les empêche pas d'être un peu racistes, mais tout de même, voilà, il y a un calme. Et c'est drôle pour nous de marcher sans arrêt, un pied en France, un pied en Suisse, hein.
Donc là, à plus de 80 ans, Jacques, tu rentres dans le couloir de tous les dangers, le couloir des prédécédés.
Ah et oui, pour... c'est une enfant qui m'a dit, vous qui êtes prédécédé. C'est pas moi qui ai inventé ce mot-là, hein. Je trouvais ça très bien. Oui, on attend la charrette, quoi. Il me diagnostique un cancer de la prostate, il y a 11 ans. Et avant-hier, je lis dans le journal, mais c'est de la connerie, le cancer de la prostate, ça n'existe pas. Les chiffres que donne le taux PSA ne veulent rien dire. La plupart des cancers de la prostate sont des cancers indolents. Ah, magnifique. Ils sont stationnaires. Et presque tous les hommes meurent avec le cancer de la prostate sans même le savoir. Donc je suis tranquille au niveau du cancer de la prostate, il est indolent. Donc voilà, on ne sait pas de quoi on va mourir, hein. Ça, personne ne le sait, mais on attend.
De toute façon, tu n'arrêtes pas, tu te tournes de plus en plus vers la poésie et tu retrouves tes 17 ans.
Oui, mais moi, ce n'est pas la poésie que j'aime, la poésie, je n'aime pas. C'est trois textes. Non, la poésie, il ne faut pas me parler de poésie. Je connais trois textes de Baudelaire, quatre textes de Blaise Cendrars, c'est beaucoup de Rimbaud, c'est tout. Mais la plupart, quand on parle de poésie, je sors mon revolver, parce que c'est très très ennuyeux. Dès qu'il y a de la poésie, comme les gens disent la poésie avec un air mystique, j'aime pas ça du tout, en fait. J'aime beaucoup les poèmes d'amour, oui, les poèmes qui s'adressent à quelqu'un, hein. Hein, laisse-moi caresser longtemps, les tresses de tes cheveux. Ça, j'aime bien les poèmes d'amour. Mais les poèmes sur le soleil qui se couche dans une lumière bleuâtre, avec les chrysanthèmes qui accordent leur ton avec la robe de mariée de la femme qui passe au loin. Non, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout.
Mais en 2009, lors d'un entretien pour Surpris par la nuit, lorsque je t'avais questionné justement sur la poésie, tu m'avais dit « Oui, mais la poésie, c'est pas pareil, ça se joue pas, ça se vit. »
Oui, j'ai dit ça peut-être.
Et tu es d'accord avec toi-même ?
Non, parce qu'après j'adore dire des poèmes comme ça par cœur, mais je les adresse à quelqu'un. Faut pas que je parle de ça. C'était longtemps un outil de séduction, la poésie. Parce que quand tu parles dans le creux d'une oreille d'une femme, que tu lui dis en susurrant de la douceur, calme un peu, des poèmes de Verlaine, des poèmes d'amour, elle craque, hein. Elle craque. Donc, j'apprenais aux jeunes dans les ateliers pour ados, je leur disais, toi, tu sais pas draguer, je vais t'apprendre à draguer, tu vas voir. Avec un peu de verbe, tu vas draguer beaucoup mieux que comme tu fais aujourd'hui. Hein. C'est comme ça qu'ils apprenaient plein de poèmes d'amour et qu'ils revenaient au cours d'après. Ils disaient, ah, monsieur, ça a marché bien le poème que vous m'avez donné. Il a bien marché. Hein. Voilà. Tu sais, quand je faisais les chambres d'amour, c'est-à-dire, on disait des poèmes dans une chambre d'hôtel à une seule femme, les femmes souvent elles me disent, oh là là. Elles comprennent même pas que je dise des poèmes, tu sais, tes yeux sont si profonds, comme ils penchent. Elles croient que c'est moi qui l'invente, alors que c'est Aragon. Il y en a une qui me dit, si seulement mon mari m'avait parlé une seule fois comme ça dans sa vie. Oh, monsieur, c'est trop beau, donnez-moi la main. Donc c'est un outil de séduction incomparable, les mots, les beaux, les jolis mots.
En décembre 2023, tu t'es rendu à Harar.
Ah voilà, ça c'est...
En Éthiopie. Pour jouer 150 ans après qu'elle fut écrite, Une saison en enfer, sur le lieu même où Rimbaud a terminé sa vie. Mais alors, par rapport à ce que tu viens de dire, ce qui m'étonne, c'est que c'est un spectacle de l'unité, du théâtre de l'unité.
Oui, mais tu peux dire...
Vous êtes à plusieurs.
Tu peux dire que c'est un non-spectacle aussi, il n'est pas annoncé. On se présente à une porte de la ville de Harar. On sait que c'est la porte par laquelle est rentré Rimbaud, et peu à peu, on fait une sorte de chemin de croix, presque. On traverse la ville, il n'y a pas de public. Hein. Les gens s'agenouillent devant nous, ils croient qu'on est des sortes de nouveaux saints, des gens venus de je ne sais pas d'où. C'est incroyable. C'est passé des choses incroyables. C'est là que j'ai plaidé pour le non-public, c'est-à-dire il y a du public, mais pas du public convoqué. C'est des gens, ils nous voient passer. Et ils comprennent Rimbaud mieux que les gens comprennent Rimbaud à Paris. Voilà, c'est très bizarre. Parce qu'à Harar, tout le monde sait que Rimbaud a vécu là-bas. La grande avenue de Harar, elle s'appelle avenue de Charleville, t'imagines, hein. Et tout le monde connaît Rimbaud, il l'appelle Rimbaud. J'avais des petits badges à distribuer aux enfants, les enfants se l'arrachaient, c'est magnifique. Et donc j'ai vécu un moment un peu mystique, en me disant je marche là où marchait Rimbaud, là où il est rentré dans Harare quand il avait 30 ans. Il avait déjà abandonné l'écriture, hein, mais il vivait. Et quand tu rentres dans Harare et que tu vois tous ces gens qui mangent des feuilles de cat, qui se droguent, hein, tu dis je comprends pourquoi il est resté là-bas, pourquoi c'est le seul endroit où il a bien vécu, voilà.
Oui, mais avant de t'y rendre et de vous y rendre...
Oui.
Vous êtes allé à Charleville-Mézières,
oui.
Et moi je me suis rendue au spectacle, j'ai réservé,
oui. Ah oui.
Quand
oui.
Vous l'avez joué.
Oui, sur votre...
Donc c'est devenu un spectacle quand
oui,
même.
Oui, malheureusement. Non, j'aurais pas voulu, mais il fallait que la compagnie vive. Là c'est pas moi, c'est Hervé qui... Moi je voulais pas en faire un spectacle, moi je voulais en faire un acte poétique radical. Mais Hervé il a dit, écoute, il faut faire rentrer les sous, il faut qu'ils le vendent, etc. Oui, on l'a un peu vendu. Beaucoup, on l'a vendu, il y a 5 comédiens qui doivent se nourrir, qui doivent être intermittents, etc. Voilà.
Des jeunes comédiens.
Oui, ils sont tous jeunes, c'est transgénérationnel notre pièce. Je leur transmets Rimbaud, ils me transmettent leur jeunesse, voilà. Oui, c'est vrai que je suis en contradiction, mais ça c'est... je suis pas une contradiction près, hein. On avait dit que je détestais que le théâtre commence par un billet qu'on déchire, et ben, c'est vrai que souvent, on le fait, le billet. Le billet vendu qui se déchire, on fait la convocation à telle heure, il faut être à l'heure, etc. Ça, on peut pas être trop pur, tout de même.
Moi, j'ai un souvenir à l'hôtel Sponeck, où, avant de rentrer, c'était Ce soir on tue le cochon, un spectacle que vous aviez invité, et je me souviens que tu nous fouillais pour savoir si on n'avait pas de billet.
Drôle de souvenir,
mais un souvenir qui va avec la déchirure.
Oui, d'accord. Moi, j'en ai fait des bêtises, hein. J'en ai fait beaucoup. Hein.
Mais avant d'aller à Harare, quand même, vous êtes... excuse-moi de continuer sur Rimbaud. Vous êtes allé là où il est né, là où il a écrit,
oui.
Avant d'aller là où il a vécu ce qu'il a écrit.
Oui, oui. Ben oui, il y avait toute une démarche... Mais comment dire, c'est une pièce qu'on n'a jamais commencée. Toi, je suis pas comme les gens dans les compagnies qui disent on va faire une créa, on a fait un dossier à quatre, on cherche des subventions. Pas du tout. Moi, je commençais à apprendre le texte. Qu'est-ce que tu fais, Jacques? Ben, je dis, je suis en train de me faire une saison en enfer, tu sais, pour ma mémoire. Je cultive ma mémoire. Oh, je peux pas l'apprendre avec toi, mais si, bien sûr, tu peux l'apprendre. Viens avec moi, on va le faire à deux. Après, il y en a une troisième qui dit, oh Jacques, il paraît que tu fais, moi j'ai envie de l'apprendre aussi. Voilà, on se retrouve à deux femmes merveilleuses, moi, hein. Et après, je dis, mais il nous faut une sorte d'accompagnement musical et tout. Alors, voilà. Il y a Clément qui nous fabrique de la musique électronique. Après, il y a Hervé qui dit, moi je voudrais faire la mère de Rimbaud dans ce cas-là, si vous faites du Rimbaud, voilà. Et puis, c'est l'époque du confinement, je disais, on va faire des séances secrètes clandestines dans un grenier. Mais elle dit, non, on va le faire chez Rimbaud, dans les prés, comme il l'a écrit, tu vois. Moi, j'imagine que Rimbaud, il était très malheureux. Et d'un seul coup, il sortait de chez lui et il marchait dans la campagne et il hurlait. On n'a jamais pris la décision de faire un spectacle. C'est un jour on l'a fait, voilà. Alors, on n'a jamais pris la décision de le vendre, mais un jour on l'a vendu, voilà. Moi, je voulais pas. Je voulais que ce soit uniquement des actes poétiques dans des lieux précis, etc. Mais après, on l'a fait. On l'a fait dans les bois, on l'a fait un peu partout. Et en fait, ça me galvanisait de jouer. C'est ça qui était bizarre. Ça me galvanisait un peu. Même quand je voyais les gens perdus qui comprenaient pas, tu peux t'enivrer avec les mots. Hein, tu te prends une injection de mots, c'est très agréable.
Bah oui, parce que tu es acteur.
Oui. Comme dit Hervé Lafont, je suis très mauvais acteur, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais je joue.
Tu as commencé par jouer un Doryfor.
Oh là là.
Dans une pièce de Catherine d'Asté.
Comment vous connaissez ça, madame? Incroyable! Parce que là, vous me ramenez en 1968, avant même le théâtre de l'Unité.
Eh oui.
Oui, je jouais avec Catherine d'Asté dans un spectacle pour enfants. J'avais un autre comédien qui après a fait une carrière à l'intérieur du théâtre, puisqu'il est rentré à la Comédie Française, Didier Sandre, qui était un autre Doryfort. Mais il était bien meilleur que moi comme Doryfort, il faut reconnaître.
Enfin, tu as commencé par jouer à un nuisible, puisque le Doryfort est un nuisible. Oui. C'était dans Gloméol
et les pommes de terre.
Gloméol et les pommes de terre. Ensuite, tu as joué Shakespeare qui mourait.
Oh, Shakespeare mourant. Au théâtre, je suis mort plein de fois, oui. Ben, j'ai joué, bien sûr, j'ai été assassiné même.
Tu as été assassiné?
Dans Macbeth, le roi Duncan, il est assassiné. C'était très agréable, dans la forêt.
Tu as joué la reine d'Angleterre?
C'est un cri, oui. La reine d'Angleterre, peut-être.
Oui, oui, tu as joué le pape?
Ah, le pape, je joue souvent. Ah oui, ça c'est... Ah ben oui, bien sûr, je joue plein de rôles dans les Kapuchniks. C'est un cabaret dissident et politique. Voilà, je fais tous les vieux, moi. J'ai surtout fait récemment un Biden que tout le monde y a cru. Je marchais, il a exactement le même âge que moi. Moi, je regarde tous ceux qui ont le même âge que moi. Hein. Je vois Johnny Hallyday, il a le même âge que moi. Bernard Tapie, ils sont partis avant moi. Bernard Tapie, il a le même âge que moi. Serge Lama, il y en a plein qui ont le même âge que moi. Et donc Biden, il a exactement le même âge que moi. Et j'ai joué Biden et il paraît que les gens disaient, mais on a cru le voir, Biden. Tu vois, j'avais plaqué mes cheveux, j'avais un beau costume. Je marchais à la vitesse de Biden et j'étais un peu perdu comme lui. Donc je joue tous les vieux, c'est pour moi. Le pape, je suis un très bon pape.
Et la reine d'Angleterre?
La reine d'Angleterre, oui, j'ai fait ça.
Elle est plus vieille. Hein.
C'est amusant de jouer une femme. Mais oui, mais elle avait 80, 90, hein, tout de même, quand je la jouais. Je faisais la reine d'Angleterre qui assistait à son enterrement.
Et sinon, tu écris. Tu écris sur tout ce qui bouge.
Oui, je crois que ça vient de... Quand mes parents se sont séparés, ma mère est partie avec un Anglais en Angleterre. Moi, j'étais en France. Et je racontais ma vie à ma mère. Alors, c'était à l'époque avec des lettres, avec des timbres. Quand ma mère est morte, elle m'a laissé une boîte à chaussures avec toutes mes lettres. Alors, j'ai regardé un peu, je dis, mais t'étais complètement malade. Et t'as continué d'être malade, puisque t'écris sans arrêt qu'à des femmes. Il y a très peu d'hommes à qui je corresponds, qu'à des femmes, comme si c'était des substituts de ma mère à qui je raconte ma vie. Et après, heureusement que Annie Ernaux, elle a dit, tant qu'une chose n'est pas écrite, elle n'a pas été vécue. Comme ça, ça m'aide à me dire, bah oui, Jacques, tu racontes ta vie pour qu'elle existe vraiment. Il y a même des moments où il faut qu'il m'arrive quelque chose pour que je puisse écrire à quelqu'un. Je dis, oh là là, aujourd'hui, j'ai rien à écrire. Mais vous inquiétez pas, ma chère, cette émission va faire l'objet d'un petit billet, parce que c'est tout de même un moment bizarre de sa vie. Donc tout ce que je vis, je le raconte. Voilà, j'ai plein de correspondantes.
Bah, quand même, tu publies chaque semaine un petit billet sur ton site.
Oui.
Et qui s'adresse pas qu'à des femmes.
Oui, oui.
Mais il y a plein de gens qui...
Ah non, là, il s'adresse à tout le monde. C'est des pensées générales. C'est dans quelle humeur je suis le samedi. Voilà, c'est normalement ça. Oui, oui, ça me fait beaucoup de bien. Je suis lu par des personnes que j'imaginais pas, mais ça, je le dis pas aujourd'hui. Des personnes beaucoup plus connues que... C'est amusant.
On ne citera pas de nom.
Non, mais c'est... Quand j'écris, je pense à ces personnes. Je dis, tu dois faire attention à ce que t'écris, tout de même. Fais attention, hein. C'est dangereux.
Alors, Jacques Lifshin, te censures?
Je me sens sûr, oui, c'est bien le mot. Non, je me sens jamais sûr. Mais non, je me censure... Ben oui, bien sûr, bien sûr. Ben, bien sûr, il y a des trucs que j'ose pas dire. Attends, il y a des sujets totalement tabous, surtout dans ma famille. T'imagines que je vais pas parler du 7 octobre, hein, on va pas s'amuser à dire que c'était peut-être qu'à force de bâillonner les gens, un jour, ils se révoltent. Non, je vais pas parler de ça, je vais pas dire que la guerre d'Algérie a commencé par un terrible massacre de Français, et qu'ils arrachaient les membres, et qu'ils étaient ignobles, ils coupaient les langues, etc. Le début de la guerre d'Algérie, voilà, c'est... Voilà, quand tu oppresses trop quelqu'un, ben... Voilà. Ça, j'ai pas le droit de le dire. Là, je l'ai dit, mais j'ai pas le droit, normalement. J'ai pas le droit. Et si je te parlais d'autre chose, j'ai pas le droit non plus. On coupera au montage.
Et là, vient le temps bientôt de se quitter, et vient le temps des regrets. Kateb Yacine, on n'en a même pas parlé.
Ah oui, ben oui. Ben oui, je préfère une liste de personnalités qui m'ont influencé. Donc quand j'ai commencé le théâtre, vraiment le début professionnel, c'était avec Kateb Yacine. Kateb Yacine qui est un auteur algérien. je jouais dans La Poudre d'intelligence, au théâtre de l'Épée de Bois. Et à l'époque, c'était le 31 décembre 1967. C'était l'époque où vraiment la France soit était à gauche, soit était réac, voilà. Donc le spectacle se terminait avec le soleil rouge de la Révolution et tous les comédiens saluaient le point droit levé. Et il y avait cet auteur incroyable qui s'appelait Kateb Yassin qui avait écrit cette pièce et à la fin du spectacle, tout le monde le suivait, on allait au bistrot avec lui, il y avait toujours 30 personnes. Il philosophait, il était vraiment un homme magnifique. Vraiment un homme magnifique, qui connaissait la langue française et qui savait parler de l'Algérie. Il était extrêmement anti-religieux, extrêmement anti-mufti. J'ai beaucoup sympathisé avec lui. Je suis allé le voir en Algérie et il m'a appris plein de choses sur le théâtre, surtout une sorte de générosité humaniste capitale, voilà, incroyable. Voilà. Le problème, c'est qu'il aimait trop le coup du Rhône. Ça, c'est un petit problème. Enfin, on n'en parle pas. Hein, mais il disait toujours les cafés à Paris sont pas assez grands. Moi, je veux des cafés avec 30, 40 personnes qu'il suivait sans arrêt. Voilà, c'était un homme magnifique.
Et Jean Villard, tu l'as rencontré ?
Alors Jean Villard, oui, je l'ai vendu. À l'époque, je faisais marchand de journaux à Avignon. Il n'avait jamais d'argent sur lui, alors je lui offrais. Hein. Mais Jean Villard, c'était un pape. C'était tu allais l'écouter au verger comme s'il t'allait écouter Jésus. Hein. On prenait ses paroles, on buvait tout ce qu'il disait, on y croyait à tout ce qu'il disait. Justement, c'est lui qui disait faire du théâtre pourquoi ? Non, c'est faire du théâtre pour qui ? C'est lui qui m'a foutu dans la tête qu'il fallait absolument changer le public. Il y en a pas d'autres, Jean Villard, aujourd'hui. Il n'y a pas d'homme qu'on a respecté comme lui. Hein. D'abord, il avait une tête d'évêque, hein. Il n'était rien d'autre qu'un évêque, hein. Il était extrêmement religieux, hein. Voilà. Donc, il m'a énormément marqué, Jean Villard. J'ai dans la bibliothèque tous les écrits de Jean Villard, que j'adorais. Après, quand il est mort, on lui a fait un hommage à la cartoucherie, le Jeune Théâtre, à l'époque, ça s'appelait le Jeune Théâtre. Il n'y avait même pas de théâtre de rue encore. C'est en 71. On a fait un hommage à la cartoucherie et après j'étais très ami avec son successeur. Et un jour j'ai dit à son successeur, c'est un peu anecdotique, je lui ai dit mais, il s'appelait Paul Puot. Mais Paul, franchement, le rêve de Jean Villard, nous avec le théâtre de rue, nous l'avons réalisé. Il m'a répondu, tu sais Jacques, faire du bruit et du feu, non. C'est pas ça le théâtre populaire. Le théâtre populaire, il faut qu'il y ait du contenu populaire, du contenu progressiste. Oh, ça, c'est vrai. C'est vrai qu'on fait beaucoup de bruit, beaucoup de feu, que notre théâtre de rue, il attire parce que ça ressemble beaucoup à des feux d'artifice. Voilà. J'ai gardé ça derrière mon oreille en me disant, oui, pour être populaire, la voix doit sortir de la terre. Voilà, ça m'avait troublé ce qu'il disait, qu'on n'était pas populaire finalement, parce que voilà, attirer du monde, c'est pas dur. N'importe quel feu d'artifice du 14 juillet, ça attire du monde. Hein. Voilà.
Il y a Peter Brook aussi qui t'a beaucoup.
Bah oui, Peter Brook, je l'ai vénéré, puisque j'étais à Londres, quand ma mère était à Londres, je suis allé voir une pièce de lui qui m'avait stupéfaite. Ça s'appelait US. C'était sur la guerre du Vietnam. Et à un moment, il y a un acteur qui brûlait un papillon vivant et qui disait « La mort d'un papillon vous touche plus que la mort d'un Vietnamien. » Oh là là, c'est oser brûler un papillon sur scène. Mais c'était affreux de voir cette scène. Le comédien tenait le papillon. Ça m'a marqué. Donc après, je vénérais Peter Brook. Et voilà, une fois, je l'ai regardé répéter, tout ça, je lui parlais trois mots. Parce que je lui ressemblais beaucoup quelque part. De toute façon, on avait un peu les mêmes origines russes et juives, ça me rapprochait de lui un petit peu. Moi, j'aimais bien Peter Brook, oui. Voilà. Et puis, il y en a d'autres que j'ai aimé. C'est Eugenio Barba aussi, qui m'a énormément troublé. C'était un disciple de Grotowski. Grotowski, c'était la folie, ce type-là, ce Polonais, qui voulait jouer pour très peu de monde, parce qu'il disait, le théâtre, si l'acteur est à plus de 5 mètres du spectateur, ça n'existe plus, il n'y a plus de théâtralité. et qui disait la plupart des gens vont au théâtre pour des mauvaises raisons. C'est pour se montrer, c'est des raisons sociales. Très peu de gens ont besoin du théâtre spirituellement. C'est pour ça que moi j'arrête. Mais je l'ai vu jouer dans une séance incroyable. Je sais plus comment s'appelait la pièce. C'était une violence. Ça pouvait durer que 30 minutes, les pièces de Grotowski, tellement c'était violent. Voilà. Après, je suis allé faire les stages avec lui. Là, j'apprenais plein de choses. Des formules que dont je me sers encore aujourd'hui. Quand on faisait une improvisation, on nous disait, ne pensez pas à ce que vous allez dire, mais comment vous allez le dire. Et tu sais, j'ai repensé à Trump. Il fait exactement ça. Il dit n'importe quoi. Mais il le dit avec une fougue, avec une, comme une certitude. Oui, oui, il mange des chiens, oui, etc. Et tout le monde le croit. Et donc, ses pires ennemis votent pour lui tellement ils croient tout ce qu'il dit. C'est une sorte d'évangéliste, hein. Mais donc, j'ai appris que tout est dans la manière de dire, tout est dans la passion avec laquelle tu dis quelque chose, avec laquelle tu assènes le verbe. Voilà. Voilà, il y a tellement de choses qui vous m'avez fait remonter que je sais même plus où j'en suis. Hein. C'est bizarre qu'à force de parler, de répondre aux questions, je me dis mais c'est pas possible. Tu as fait tout ça, tu as fait tant de pièces, tant de bêtises, tant de conneries, tant de plaisanteries. Tu as joué pour tellement de monde, tu as joué tellement longtemps. C'est toi, et par moments, je me reconnais pas, parce que quand on vit dans le moment, on n'a pas tout 68, tout 69, tout 80, tout remonte pas en nous. Alors, j'ai une sorte de sensation, là, je suis schizophrène. Je me vois à côté de moi, mais je ne connais pas ce Jacques Lifshin. Je ne connais plus. Je ne sais plus qui c'est. Voilà. Je me dis, il a peut-être jamais existé, peut-être même. Si je devais faire, moi qui adore faire des formules, des apophthegmes, comme on dit, c'est des formules finales, aujourd'hui, je dirais, je cherche juste une gomme pour effacer l'immondice humaine. C'est ce qui me vient.
J'avais pensé à « Merci Jacques Lifshin ». Comme te l'a écrit Christian Bobin, vous êtes un angoissé infiniment rassurant. C'était À Voix Nue, cette semaine avec Jacques Lifshin. Réalisation Anne Fleury, prise de son Johanna Gabrick, chargée de programme Daphné Abgral, une série de Sylvie Gasteau, disponible sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.